Chapitre 3. Bouton de rose. Par son travail de fourmi économe, Madame Lénier avait peu à peu rassemblé autour d'elle quelques brins de confort. De mois en mois, elle ne vivait que pour l'acquisition projetée, une demi-douzaine de serviettes, un morceau de soie Liberty de quoi faire un coussin, une belle nappe damassée, des mouchoirs de batiste. Pareil au naufragé, se bâtissant une cabane, elle oubliait la tempête qui l'avait jetée, toute dépouillée, sur ce rivage. L'œuvre de reconstruction satisfaisait complètement son instinct de castor, qui est aussi un instinct humain. Le centre de sa vie était une pile de linge. Son but, l'augmenter. Sa plus douce jouissance, la contempler ou y songer. S'hypnotisant ainsi dans une pensée unique, Madame Lénier, qui avait été l'épouse dévouée jusqu'au sacrifice, tombait par degrés dans un doux égoïsme. Elle n'aimait plus personne de cette affection directe qui implique un devoir. On la gâtait beaucoup à cause des migraines dont elle était la martyre, et pour chacune de ses indispositions, elle n'avait qu'à choisir une garde-malade parmi l'élite des postulantes. On la comblait de prévenances, sans rien attendre d'elle en retour, parce qu'elle avait eu de si grands revers. La veuve s'accoutumait aisément à une faveur aussi commode et glissait sans s'en apercevoir sur une pente au bas de laquelle, par un revirement fort ordinaire, elle eût trouvé la critique et le jugement. Déjà, Madame Perrault-Campillon rencontra Clermonde, la bonne de Mademoiselle Alice Métral, lui avait demandé si elle ne se fatiguait point à faire deux services. « Car, ajouta-t-elle avec son mince sourire, j'apprends que votre maîtresse vous a prêté à Madame Lénier-Nicole pour ses nettoyages de printemps. »« Ma foi, répondit Clermonde, loyale à sa maîtresse, prêtée ou pas, les jours n'ont que 12 heures tout de même. » Cependant, Mademoiselle Alexandrine Jacquet, dont le sacerdoce était de maintenir le niveau moral de la colonie, et ce niveau s'élevait déjà à une altitude remarquable, Mademoiselle Alexandrine estimait, elle aussi, que Madame Lénier allait descendre au-dessous du minimum de conscience et qu'elle n'était même plus digne de ses revers. Pas de devoir, pas d'expériences intérieures, rien à dire dans les réunions d'intérêt général, une passivité où l'âme s'engourdit. Notre amie a besoin d'une secousse. Et cette secousse, si Mademoiselle Alexandrine avait pu la prescrire, aurait eu la force d'une décharge électrique. Mais la vie est souvent plus miséricordieuse que nous-mêmes, et nous trouvons sa justice trop modérée jusqu'à ce que notre tour arrive. L'avertissement du devoir, pour Madame Lénier, fut une lettre d'Afrique, du Transvaal, priant la veuve de se préparer à recevoir sa nièce unique, et sa nièce elle-même a porté la lettre. Ainsi, le spectacle pénible d'une femme reculant devant sa tâche fut épargné au village de dames qui en aurait été fort choqué. Impossible d'hésiter, impossible de lever les mains au ciel et de dire « Mais je n'ai pas de place, pas de lit vacant, je suis sujette à des migraines, je n'entends rien à l'éducation. Mon frère est bien étrange, que ne me donnait-il le temps de chercher un pensionnat ?» La fillette était là et la lettre disait « Ma chère sœur, une occasion se présente d'envoyer Paulette en Europe. Je n'ai que 3 heures pour nous y préparer, elle et moi. Élève-la de ton mieux et garde-la 4 ans. Tu sais qu'elle en a 14. Sa mère, si elle eût vécu, aurait tenté de lui donner ici une éducation. L'essayer à moi tout seul serait presque un crime envers l'enfant qui te paraîtra sans doute bien ignorante et sauvage malgré mes soins. » Je t'écrirai plus longuement par le prochain bateau. Paulette te remettra une enveloppe contenant ses papiers et un chèque dont je te prie d'user largement pour toutes les dépenses nécessaires. Quant à la pension, calcule ce qui est raisonnable et prends-en le double car je veux que la tâche d'élever ma fille ne soit pas pour toi une charge sans compensation. Ton pauvre frère, à force de rouler, s'est amassé pas mal de mousse en dépit du proverbe. » Pleurante et riant d'émoi, Madame Lénier ne sut qu'embrasser la petite voyageuse qui se trouvait à voir les yeux de son père, la fossette de sa grand-mère paternelle, les cheveux bouclés de cousine Gertrude et nombre d'autres particularités aussi remarquables que de bon augure. Quand cette veuve sans enfant eut, 2 soirs de suite, bordé Paulette dans le lit blanc qu'on lui improvisa sur le canapé du salon, quand elle eut, de matin, lissé les plumes du petit oiseau effarouché, quand elle entendit mademoiselle Alexandrine l'exhorter d'un ton sévère à entreprendre le devoir utile de cette éducation, et madame Perrault-Campillon lui conseillait non moins vivement de ne se charger à aucun prix d'une responsabilité aussi grande, madame Lénier passa un quart d'heure en colloque sérieux avec sa conscience et découvrit que, dans cette grave conjoncture, la conscience et l'inclination étaient d'accord. Cette Paulette, avec ses cheveux frisés, son drôle d'accent exotique, sa fossette au menton et les petites pointes de caractère que déjà on lui devinait, eut vite fait de ravir le cœur de sa tante d'abord, et puis de tous les autres cœurs féminins, affamés et vacants de maternité, qui battaient sous chaque toit du village de dames. Quand on apprit, après 2 jours de suspense, que madame Lénier garderait décidément sa nièce, mademoiselle Alexandrine Jacquet convoqua chez elle une réunion des dames les plus autorisées pour concerter ensemble un plan d'éducation. La tante trouvait, par devers elle, qu'il était plus urgent de s'occuper du trousseau de lingerie et qu'avant d'avoir des leçons, sa nièce devait avoir des chemises. Mais, comme elle était avisée, elle ne découragea aucun bon vouloir. Tandis que madame Perrault-Campillon offrait l'enseignement du piano, mademoiselle Bellange des leçons de miniature et mademoiselle Alexandrine la méthode du père Girard, tandis que les mots d'intuition et de déduction, d'Ohlendorf, de Larousse, de surmenage intellectuel et de gymnastique suédoise se croisaient dans l'air, madame Lénier ne rêvait plus que du joli linge fanfreluché. Sa passion pour la fine toile et les broderies l'eût entraînée à des extravagances sans le veto de Paulette elle-même, dont les 14 ans avaient leur bon sens et leur franc-parler. « Ma foi, dit-elle, tant tard ici, je sais ce que l'argent vaut et papa travaille comme un cafre pour le gagner. J'étais sa petite femme de charge là-bas et ça me fait le cœur diantrement gros d'y penser. Notre cuisinière est une Allemande qui nourrissait papa de beignets. Et encore, ils lui reviendront aussi chers que du beefsteak. Ah, nom d'un chat, tant tard ici, j'ai bien des soucis. » Au début, Paulette disait « nom d'un chien ». Elle avait acquis ce juron et 2 ou 3 autres pas plus gros dans la compagnie des commis de son père qui semblaient avoir pris une part active à son éducation. C'était le plus innocemment du monde qu'elle semait sa conversation de ses explétifs quand elle avait besoin d'exprimer un sentiment avec quelque vivacité. Sa tante en avait été horripilée d'abord. Ensuite, voyant que la petite n'y entendait pas malice, elle lui avait proposé de remplacer le chien par le chat, qui est une bête plus douce, et elle espérait, de substitution en substitution, arriver aux oiseaux, à la colombe par exemple, dont le nom est, sans conteste, à sa place dans une bouche de jeune fille. Nom d'une colombe. Car madame Lénier s'était promis, dès le premier jour, de contrarier le moins possible cette nièce coloniale. Elle se cabrerait et nous aurions des scènes. Le beau résultat. Non, Paulette a de la droiture, elle aime son père. Le reste viendra sans violence. On comptait aussi beaucoup sur Marie-Louise. Marie-Louise était la perfection rose et blanche. Le village de dames était fier d'elle car il pouvait s'attribuer quelques droits d'auteur dans la création et le fonctionnement de cette petite merveille. Officiellement, Marie-Louise appartenait à sa tutrice et marraine, qui était en même temps sa cousine et sa grand-tante, si bien que ça n'en finissait pas de titre de parenté et de reconnaissance. La personne sur laquelle s'entassaient ses obligations familiales était une très vieille dame, distraite autant que vénérable, et qui cachait ses cheveux blancs et son front d'ivoire sous un fronteau de batiste comme une religieuse. Le fronteau était uni les jours ordinaires, bordé le dimanche, d'une étroite valencienne. Sur ce principe-là, madame Vieux-Girard était inébranlable, mais pour tout le reste, elle laissait, comme on dit, couler l'eau et s'en rapportait à sa bonne, veuve comme elle, mais beaucoup plus jeune, une grosse bourguignonne qui répondait au doux nom de Fruminsette. Marie-Louise était encore au berceau quand sa vieille marraine reçut la tutelle de cette petite orpheline. Alors, la considérant qui s'usait son biberon d'un air sage, madame Vieux-Girard décréta, pour en avoir l'esprit déchargé, « Nous ferons de cette petite fille une institutrice et elle gagnera sa vie en Angleterre. » Dans ce but, on la plaça chez une bonne fermière qui élevait très bien les canards et on l'y oublia un peu. Le tuteur adjoint envoyait chaque semestre la pension fixée et la mère nourricière y répondait par un beau reçu accompagné d'un de ses élèves emplumés qu'elle adressait alternativement au tuteur et à Madame Vieux-Girard. Ce fut même à l'occasion d'un de ces volatiles, délicieusement accommodé au petit pois, que la marraine se ressouvint de sa filleule. « Bonté divine, Frumencette ! » exclama-t-elle, « vous auriez dû m'y faire penser. Je crains fort qu'en arc d'agrément, cette petite n'ait pas appris grand-chose. Vous êtes fille de bon conseil, arrangez l'affaire, je m'en rapporte à vous. » La brave bourguignonne prit des informations, d'où il résulta que Marie-Louise fut jetée des bras de sa naïve fermière dans ceux d'un pensionnat à la mode. Ce grand changement ne déconcerta pas le moins du monde la fillette. Elle ouvrit un peu plus grand ses yeux de myosotis et trouva tout naturel d'être gâtée par les grandes demoiselles du pensionnat, comme elle avait été adorée par les gros gamins de la ferme. Mignonne et potelée et blanche, elle ressemblait à une jatée de crème où l'on aurait mis trempée des fraises. Elle apprit très vite beaucoup de choses utiles. Ainsi, les capitales de tous les pays du monde et les couleurs qui sied de porter quand on est blonde, et à écrire de jolies lettres de remerciement à sa marraine et au tuteur adjoint, qu'elle appelait avec politesse « Monsieur, mon cher co-tuteur », suivant les instructions de sa maîtresse de style. Elle faisait tout ce qu'on lui ordonnait, et personne ne la vit jamais de mauvaise humeur. Elle devint la gnochérie du pensionnat, qui, bientôt cependant, dut pleurer sa perte, car Madame Vieux-Girard, ayant invité Marie-Louise à passer les vacances chez elle, s'attacha si fort à la sage fillette qu'elle la garda. Frumencette fut assurément l'inspiratrice de cette résolution extraordinaire. Depuis des années, elle souhaitait en secret que sa maîtresse adoptât un enfant. Pour son cœur affamé de tendresse, la chatte Albertine et le bouvreuil Albert n'avaient été que des succès d'années insuffisants. Elle jura qu'elle prendrait sur elle toute la responsabilité des robes et fourreaux, des maladies possibles, voire même de l'éducation, car Dieu merci, fit-elle, la petite trouvera dans ce village de dames autant de maîtresses qu'il y a de femmes sans occupation, et c'est dire toutes quasiment. Madame Vieux-Girard avait un faible pour les jolis visages. Si Marie-Louise eût été laide, on l'aurait certainement renvoyée à son pensionnat, s'y formée pour l'exportation. Mais avec ses yeux bleus comme la fleur du lin, ses joues d'églantine, sa bouche en bouton de rose, elle ornait le salon mieux qu'un bouquet. Sa marraine ne lui demandait autre chose, sinon de lui faire son thé à 4 heures, et peut-être de lui recoudre un bouton de gant à l'occasion. Mais, ainsi que Frumencette l'avait prévu, tout le village s'occupa de Marie-Louise. On la bourra de leçons, on se l'arracha corps et âme. On lui broda des tabliers, des sachets, des mouchoirs à ne savoir qu'en faire. On lui façonna des manières exquises et des sentiments assortis. On lui apprit à marcher, à entrer, à sortir, à saluer, à donner aux pauvres, à faire sa prière. Et malgré tant de soins, on ne réussit pas à la rendre insupportable. Pas même affectée, elle laissait toute cette pédagogie glisser sur elle, comme un oiseau laisse la pluie couler sur son plumage lisse. Elle n'apprenait que ce qu'elle voulait bien, et parmi ses affections despotiques, elle gardait tout doucement son petit quant à elle. À l'arrivée de Paulette, sa joie fut inexprimable. Enfin, avoir une amie, une créature semblable à elle, et pour qui elle pourrait éprouver d'autres sentiments que la vénération et la reconnaissance. Enfin, voir des tabliers à épaulettes sur d'autres épaules que les siennes, et pouvoir dire « tu » et jouer des quatre mains avec quelqu'un qui ferait des fautes. Il y eut un thé chez Madame Lénier-Nicole pour la présentation de ces deux printemps l'un à l'autre, et le cercle des grandes personnes admira fort le contraste qu'ils offraient. Paulette, de toute son âme impétueuse et fruste, se jeta sans perdre une minute dans l'amitié passionnée, et Marie-Louise, éperdue, tremblante devant une si grande nouveauté, admira les brusqueries de la petite sauvageonne, ses propos sans gêne, et même sa robe à grands carreaux noirs et magenta, qui, sur sa propre personne, l'eût fait évanouir d'horreur. Cette robe fut leur premier sujet de conversation. on avait permis aux deux fillettes de se retirer dans un coin, derrière la jardinière de plantes vertes, tandis que les dames prenaient leur seconde tasse de thé. Elles se contemplèrent un moment sans rien dire. J'ai l'air d'une hottentote avec cette robe, fit subitement Paulette. Je ne m'en doutais pas, mais depuis que je vous vois, je le sais. Vous me trouvez affreuse.
Bien au contraire, s'écria Marie-Louise.
Mais vous n'aimez pas les carreaux. Ce vieux monstre de Philips m'a pourtant assuré que c'était la dernière mode de Paris. Philips, celui qui tient le store, vous savez ?
Pourquoi tient-il le store ? Interrogea Marie-Louise avec timidité, en jetant un coup d'œil vers la fenêtre et s'assurant que là, du moins, le store tenait bien tout seul.
Pourquoi ? Mais il faut bien que quelqu'un le tienne, nom d'un chat.
Effarée, Marie-Louise ouvrit tout grand ses yeux d'azur.
Ça doit le fatiguer, murmura-t-elle faiblement.
Il faut croire que non, puisqu'il a choisi ce métier. Moi, d'ailleurs, je m'en bats l'œil du vieux Philips. Il m'a vendu une vilaine robe, voilà ce qui me touche.
Où achetez-vous les vôtres ?
C'est ma tante qui s'en occupe, ou plutôt Frumencette.
Ma tante à moi ne pense qu'aux chemises, soupira Paulette. Est-ce qu'il y a dans ce pays des occasions où l'on aille en chemise ?
Jamais, dit Marie-Louise avec horreur.
Ma foi, je l'aurais cru. Alors, à quoi bon tant de festons et de petits rubans si personne ne doit les voir, nom d'un chat ?
Pourquoi, dit Marie-Louise, s'armant de courage, pourquoi dites-vous nom d'un chat ?
Parce que ma tante m'a prié de le faire.
Madame Lénier ?
Mais oui, c'est à sa requête particulière que je dis ça.
Que c'est extraordinaire ! S'écria la correcte fillette. Je crois rêver.
Point du tout, on m'a envoyé ici pour faire mon éducation, vous savez, et Tantar ici commence tout de suite.
Quelle drôle de manière de commencer une éducation, songea Marie-Louise bouleversée. Elle avait eu jusqu'alors beaucoup de considération pour Madame Lénier et elle l'avait même soignée, en sous-ordre, dans plusieurs de ses migraines.
Mais vous, reprit Paulette, pour laquelle ce sujet avait des charmes, quand vous avez besoin d'un petit juron, qu'est-ce que vous dites ?
Marie-Louise rougit jusqu'à la racine de ses blonds cheveux.
Quand je suis bien contrariée, confessa-t-elle à demi-voix, je dis rave.
Tiens, c'est joli, mais un peu court, fit Paulette intéressée. On a de la peine à y mettre assez d'accent.
Voyons, rave.
Je crois que ça ne me suffirait pas.
Dites-le donc encore une fois, comme pour de bon.
Rave, répéta Marie-Louise avec docilité. Mais s'échauffant un peu dans sa mimique, elle secoua la tête et fronça le sourcil comme sous l'empire d'une vive irritation. C'était une petite scène de comédie dont Mademoiselle Alice Mettra l'eût bien ri si elle en avait été la spectatrice, mais la jardinière servait de paravent aux deux petites actrices et ces dames, buvant leur seconde tasse avec sérénité, ne se doutaient guère du genre de précepte que leur élève était en train d'inculquer à la petite sauvage.
« Quel âge avez-vous ? » demanda Marie-Louise dans un grand désir d'intimité et de confidence.
« 14 ans. Et toi ? » ?»«
Alors on se tutoie ?» soupira la blondine en extase.
« Parbleu ! À quoi bon faire des manières comme si on était de grandes demoiselles ?
Quel âge as-tu ? Dis. »«
15 ans. »«
Rave ! Eh bien non, ça ne va pas, ce rave, pour exprimer qu'on est étonné. »
« Qu'est-ce que tu dis pour exprimer que tu es étonnée ?»«
Je dis, c'est étonnant, ou bien, est-ce possible, ou bien, vous me surprenez beaucoup. »
Ça me paraît un peu fade. Barbara, notre cuisinière, disait « Blitz und Donner », mais je n'ai jamais pu m'y habituer parce que j'ai peur du tonnerre.
« As-tu vraiment peur du tonnerre ?» s'écria Marie-Louise. « Moi qui suis une poltronne, le tonnerre ne m'émotionne pas du tout.
Et des souris, en as-tu peur ? Dis. »
Elles traitèrent ce sujet à fond, puis elles passèrent des souris aux araignées, des araignées aux chiens, gros et petits, et aux ombres qu'on voit le soir. Elles déclarèrent l'une et l'autre ne point croire aux revenants, mais aux rêves un petit peu. Elles échangèrent des impressions et des anecdotes, et firent simultanément la même grande découverte, à savoir
qu'elles se ressemblaient sur nombre de points et qu'elles différaient sur beaucoup d'autres, ce qui leur parut fort remarquable. Elles avaient complètement oublié le groupe voisin des grandes personnes et parlaient avec autant de liberté et d'animation que deux naufragés qui se rencontrent dans une île déserte. « T'a-t-on déjà demandé en mariage ?» faisait Paulette, les yeux brillants, son épaisse natte noire s'agitant sur des épaules un peu maigrelettes. « Moi, juste ciel !» s'écria Marie-Louise, qui employait des exclamations à la vieille mode, celle-même de sa grand-tante. « Mais je ne suis qu'une petite fille. » En Afrique, tu serais une grande personne. Pas si tu étais anglaise, non. Les anglaises, c'est pas dans l'express. Mais si tu étais espagnole ou française, ah ben, tu verrais, on t'aurait déjà trouvé un mari. « Tu crois ?» dit Marie-Louise, avec une petite note de curiosité émue, que Mademoiselle Alice démêla fort bien, car elle avait peu à peu reculé sa chaise jusqu'à la jardinière, et elle prêtait l'oreille de derrière les feuillages. « C'est même pour cette raison, continuait Paulette de sa voix claire, que papa m'a expédiée ici. Il ne veut pas que je me marie dans les Langes. Au départ, dit-elle d'un ton mystérieux, « Monsieur Harrison voulait me faire promettre de lui garder mon cœur, et je suis bien sûre que c'est lui qui avait mis dans notre cabine un tas d'oranges et de gingerbread et un pot de camélia. Mais Aurore Jackson, avec qui je partageais la cabine, a prétendu que c'était son amoureuse à elle, et alors je n'ai plus voulu toucher même à une orange. J'aime assez Monsieur Harrison, mais je n'ai rien promis. Il m'appelait son petit poulain noir. » Reste à savoir si c'est bien respectueux, ça, pour une personne qui deviendra peut-être son épouse. Est-il vieux ? Demanda Marie-Louise, un peu haletante. Très vieux, 25 ans. Il a des moustaches longues comme ça. Paulette étendit tout son bras et Marie-Louise poussa un éclat de rire. Mademoiselle Alice songeait. Elles vont bien, les jeunes filles d'à présent. Ah, il faudra la surveiller de près, cette petite Africaine. Elle va farcir l'esprit de Marie-Louise de demandes en mariage et autres sornettes. Je conseillerai à sa tante une vigilance très particulière et j'aurai moi-même l'œil au guet. Félicitons-nous de n'avoir dans le village de dames aucune peste de garçon. Depuis ce jour, ce fut entre les deux fillettes une amitié à la vie et à la mort. Elles s'entendirent pour déclarer qu'elles ne pouvaient étudier l'une sans l'autre. Aussitôt qu'il fut question de piano, Paulette prit en grippe Madame Perrault-Campillon, qui jouait la dernière pensée de Weber, en soupirant d'une manière sentimentale et en relevant le petit doigt. Elle supplia qu'on permît à Marie-Louise de lui enseigner les premiers principes de la musique, et après ça, dit-elle, je me débrouillerai bien. Ces leçons, prises dans le salon de Madame Vieux-Girard, le matin, avant que la vieille dame eût quitté sa chambre, ces leçons furent pour les deux fillettes une source de gaieté extraordinaire. Loin de perdre son temps à des gammes banales, à des exercices comme chacun peut en faire, Paulette s'appliquait à extraire du clavier des sons imitatifs. Elle cherchait les notes dont la consonance représentait le plus heureusement un chat en colère, ou la voix de M. Harrison pleurant le départ de son petit poulain noir, ou Barbara cassant les assiettes. Dans ces moments solennels, elle imitait l'horloge de l'église qui sonne minuit sur un cimetière, ou bien un chien aboyant après les voleurs, ou bien encore, avec beaucoup d'onction, Madame Perrault-Campillon jouant la dernière pensée de Weber. Elle reproduisait, avec une étonnante mémoire de l'oreille, le rythme général du morceau, bien que la musique en fût tout de travers. Elle poussait des soupirs et ne manquait point de tenir son petit doigt dressé aussi raide qu'une allumette. Quand elle en était là de son programme, Marie-Louise, à demi pâmée de rire et d'épouvante, la suppliait de s'arrêter, tandis que Frumencette, de sa cuisine, admirait qu'en si peu de temps, la jeune demoiselle eût appris à jouer de si beaux morceaux. C'est varié, songeait-elle, et par moments, on jurerait ma chatte Albertine qui dit son mot. Le samedi était jour de fête, bien que Paulette cherchât loyalement à s'affliger des migraines hebdomadaires de sa pauvre tante. Il ne convenait point que la fillette y assistât, avait décrété le congrès de ces dames. Car l'hérédité est chose mystérieuse, Et que savait-on si un penchant à la migraine ne se fût point développé chez la nièce, rien qu'à voir les souffrances de sa tante ? Les deux fillettes étaient invitées ensemble, ce jour-là, dans chaque cottage à tour de rôle, et partout on leur faisait fête par des friandises ou par quelques menus cadeaux, par un jeu ou un petit travail amusant. L'après-midi, elles s'exerçaient à leur gymnastique suédoise sous la direction de Mademoiselle Alexandrine, qui avait fait venir de gros livres traitant savamment de cette matière et établi des trapèzes et autres balançoires dans sa remise. On faisait aussi une partie de croquet, puis on prenait le thé avec des petits gâteaux, et le soir, si le ciel était clair, Mademoiselle Alice leur enseignait à vérifier les étoiles. Bref, il n'était pas en ce bas monde de jeunes filles plus heureuses. L'éducation de leur corps, de leur esprit et de leur cœur s'opérait sur le plus beau des plans. Rien n'était laissé au hasard et tout le village de dames savait que Paulette et Marie-Louise, le lundi matin à 9h, étudiaient la bienfaisance en tricotant des petits bas pour les enfants pauvres. À 10h, la cuisine, en regardant Frumensette rouler les fricandeaux. À 11h, le piano, par des quatre mains qu'on put bien souhaiter entendre, mais Marie-Louise, avec modestie, fermait hermétiquement les fenêtres. Et ainsi tous les jours, selon un programme réglé. Ces dames ne se sentaient pas d'aise. Elles en parlaient à leurs amis de la ville qui venaient les voir le dimanche. Le printemps passa, puis l'été, puis l'hiver, et les saisons étaient moins régulières dans leur cours que la vie du village de dames, où le temps ne semblait point couler. Puis le printemps revint, et Paulette jeta loin d'elle avec enthousiasme sa toque de fourrure, son manchon, qu'il avait ravi cependant en décembre, et qu'elle avait voulu de tibétine gris clair, comme ceux de Marie-Louise. « À bas cette vieille peau de chèvre » cria-t-elle, au grand scandale de sa tante, lançant dans un coin le malheureux bonnet, au lieu de le placer soigneusement au fond d'une boîte et de l'embaumer dans le camphre et la naphtaline. « Ramasse cette toque et donne-la-moi, » dit Madame Lénier, assez choquée. « Oui, ma tante, je vous demande pardon, c'est la joie. Voici mon vieux chapeau de paille, mon amour d'horreur de vieux chapeau. Allons, ma vieille cloche, mon vieux chaume, couvre-moi encore une fois et allons ensemble à la promenade. » « J'espère, » dit Madame Lénier, en jetant un coup d'œil au programme écrit en ronde, encadré de filets rouges, qu'une épingle fixée à la paroi, au-dessus de la table à ouvrage. « J'espère, Paulette, que tu songes à aller à ta leçon d'allemand chez Mademoiselle Kebelbaum. » « Oh, ma tante, moi qui me donnais tant de peine pour l'oublier, au contraire, j'y étais presque arrivée. Nom d'un chat, d'un tout petit chat, ma tante, et seulement pour cette fois. » Car Madame Lénier ne tolérait plus le chat, ne tolérait plus la rave, exigeait qu'on se passât entièrement d'explétifs. La leçon d'allemand ne fut pas brillante ce jour-là. Marie-Louise avait mal à la tête. Le lendemain, elle semblait languissante. Le jour suivant, Frumensette lui fit commencer une cure de tisane de gentiane comme tonique printanier. On parla de cette indisposition dans la réunion d'intérêt général le mardi soir, et Mademoiselle Alice demanda s'il ne serait point à propos d'accorder aux deux fillettes une quinzaine de vacances pour leurs œufs de Pâques. On en tomba d'accord avec des clauses restrictives concernant le piano et le travail à l'aiguille. Il n'était que temps, car sans que nul s'en doutât, la pauvre Marie-Louise, victime de ses vertus, était malade de sagesse et de monotonie. Malgré la gentiane, elle ne recouvrait pas d'appétit et toutes les tentations culinaires de la désolée Frumensette étaient sans nul effet. On s'alarma sérieusement, on ne parla plus d'autre chose dans le village et Madame Bornet, la laitière, demanda avec reproche si on n'allait pas bientôt songer à faire ausculter cette demoiselle. Le docteur fut mandé qui, en 10 minutes, découvrit que la jeune Marie-Louise souffrait d'un peu d'anémie, prescrivit le lait, le grand air et renfourcha sa bicyclette. Oh, bienheureuse prescription! Le printemps était, par merveille, un vrai printemps cette année-là. Les pentes verdissaient à Pâques. Les petits chemins d'été se rouvraient, la neige fondait partout. C'était le moment délicieux où les eaux libérées par la tiédeur du renouveau chantent leur grande cantate cristalline, gouttes qui tremblent comme des diamants bleus au bout des branches avant de tomber sur la mousse, doux bruit de pluie printanière, filets de cristal qui courent et gazouillent au long des chemins, qui se rassemblent pour bondir en cascade, voix lointaine du gros torrent dans les gorges, musique libre et vivante qui mène le cortège des saisons, précédant les fanfares de la grive et l'orchestre des cigares violonistes. Cette chanson des eaux fait sortir de terre les brins d'herbe, les fleurettes ouvrent leurs yeux timides, les bourgeons se mettent à la fenêtre et notre cœur ravi exulte avec eux, tout neuf, tout frais, et crie allègrement « C'est le printemps qui passe !» Encore un printemps, soupirent les vieux avec reconnaissance, et les jeunes sont contents sans trop savoir pourquoi, comme les cabris, comme les oiseaux. Cependant, cette petite églantine pâlissante, Marie-Louise, penchait toujours plus la tête. « Je le sais bien, moi, ce que tu as !» fit un jour Paulette de son ton délibéré. « On t'a trop bien élevée et tu moisis d'ennui !» « Miséricorde !» s'écria la pauvre Marie-Louise. « Ne va dire cela à personne !»« Donc tu admets que c'est vrai ?»« Comment je le sais? Je souffre du même mal !» prononça tragiquement Paulette. « Chez moi, ça ne se traduit pas en anémie, ce n'est pas dans mes moyens. Je voudrais crier, ruer, je voudrais mordre Madame Perrault-Campillon parce que je suis un méchant poulain, tandis que tu es un ange en sucre. Voilà comme je m'ennuie, moi, quand je m'y mets. J'ai jeté ma toque par terre, mais ça ne m'a pas du tout soulagé. Il faudrait autre chose. Je sais bien ce qu'il nous faudrait. « Quoi donc ?» demanda languissamment Marie-Louise. « Ah bah, je ne te le dirai pas, tu t'évanouirais. »«
Oh, dis-le-moi, je t'en prie. »«
Tiens, comme la curiosité te ranime. Non, non, je ne te le dirai pas, bois ton lait. » Ce lait, on décida que, pour mieux interpréter les ordres du docteur, Marie-Louise irait boire tout chaud chaque soir à la ferme de Madame Bornet. Le temps était favorable, l'air tiède et la distance pas trop grande, 3 quarts d'heure au plus en montant par une pente douce. En partant à 4 heures et en se reposant après leur bol de lait, les fillettes pouvaient être de retour vers 6 heures. Madame Perrault-Campillon était d'avis qu'on les accompagnât. Mademoiselle Alise n'en voyait pas la nécessité et il fut admis finalement qu'on les accompagnerait quand on le pourrait. Les jeunes filles du hameau voisin, des filles rustiques à vrai dire, faisaient toutes seules des courses plus longues et le pays était une vraie Arcadie pour la douceur des mœurs et la rareté des vagabonds. La première fois que les petites promeneuses partirent sans escorte, c'était un jeudi. Elles s'en souviendront longtemps. Du cottage de Madame Vieux-Girard, d'où elle sortait, il fallait passer devant toutes les maisonnettes, tous les jardinets du village des Dames, et chaque fenêtre, chaque barrière, leur envoya la recommandation d'être bien sages, tant que Paulette, avant même d'être en pleine campagne, se sentait un furieux désir de faire quelques sottises. Par derrière, on les admirait. Mademoiselle Kegelbaum s'arrêtait de planter sa bordure de myosotis et joignait les mains en soupirant « Ah, Hürden, chenesse !» Et Clermonde, la bonne de Mademoiselle Alise, qui cueillait de la dent de lion dans le pré voisin, se mettait à chanter « C'est le printemps, sortons au champ, la campagne fleurit !» Sur elle aussi passait l'avril, avec sa subtile haleine qui fait battre le cœur plus vite et qui le met sans dessus-dessous. « Bon voyage, bouton de rose !» criait Mademoiselle Alise, debout à sa croisée. « Soyez bien sage, ne parlez à personne. »« Ne parler à personne ?» répétait Paulette avec indignation, relevant la tête comme un petit poney qui piaffe et se cabre. « Qu'on me muselle, alors !»« Tu veux dire qu'on te baillonne ?» corrigea Marie-Louise. « Parfaitement, et qu'on me mette des menottes et des chaînes, et qu'on ne m'envoie plus au cholet !» ajoutait-elle, ce qui gâta un peu le lyrisme de sa tirade. « Moi, d'abord, je n'ai rien promis, « et je parlerai à tout le monde. Tu m'entends? À tout le monde !»« Nous ne rencontrerons pas un chat !» fut Marie-Louise assez mélancoliquement. « On verra bien !» cria Paulette, le menton en l'air. « Le sort nous doit une revanche pour une fois où l'on nous laisse sortir sans... sans... Comment donc appelle-t-on ces vieilles personnes dans les livres qui sont toujours à fermer les verrous et à contrarier les jeunes filles ?» Oh, Paulette, si l'on t'entendait, tu veux dire des duègnes ? Mais n'est-ce pas très mal d'appeler ainsi nos bonnes amies ? Paulette se mit à siffler, ce talent d'agrément était le seul qu'elle eût apporté d'Afrique, se mit à siffler un arrangement de la dernière pensée de Weber. « Ah, ma foi, fit-elle en s'interrompant, c'est elle qui aurait besoin d'une duègne. »« Qui donc ? » exclama son amie effarée. « Madame Perrault Campillon, tu verras qu'avec ses beaux yeux de velours, elle aura des aventures. »« Juste ciel, Paulette ! » !»« C'est ainsi, j'en ai le pressentiment, je la surveille. » Rien n'était plus innocent que l'imagination de Paulette. Sa connaissance du domaine interdit consistait en mots plus ou moins romanesques, et quand les lèvres roses disaient « aventure », sa naïveté pensait à des aventures de chevalerie. Un escargot, qui se promenait sur la pente humide et mousseuse, vint les distraire de leur conversation. Paulette le prit dans sa main pour admirer de près la jolie coquille aux stries brunes et blanches. Puis elle souffla sur les petites cornes sensitives afin de les voir se contracter, et finalement elle traita le pauvre mollusque de vieux garçon égoïste, ce qui fit rire aux larmes Marie-Louise. Plus loin, une touffe de primes vertes les attira, qu'elles cueillirent toutes pour en fleurir la ceinture de Paulette. Quant à la blondine, elle n'eut pas plus consenti à porter une fleur jaune qu'à se jeter dans un étang, la tête la première. Elle attendait la fleur bleue, elle la cherchait partout et dut se contenter d'une poignée de violettes qu'elle n'aimait pas beaucoup parce que c'est une fleur de vieille dame. On s'apercevra que l'élève de Frumensette et d'un pensionnat grand genre avait des idées très arrêtées sur les sujets importants. Ensuite, il fallut s'asseoir sur un vieux tronc, car Marie-Louise était un peu essoufflée, et Paulette lui fit un dossier de son propre dos. Tout alentour, le sol était tapissé de lierre, dont elles cueillirent des rameaux pour en enguirlander leurs petits chapeaux canotiers, tout neufs et tout pareils, de paille blanche avec un ruban blanc, en nœuds bien enlevés. Soudain, un bruit se fit entendre au-dessus d'elles, dans le chemin escarpé, dont le prochain contour s'enfonçait sous les arbres, un bruit de pas et de petites pierres qui allaient roulant, cliquetant, comme si l'on se fût amusé à les jeter de côté et d'autre. « Quelqu'un !» murmura Marie-Louise, toute saisie. « Un homme ! Écoute ce pas !»«
J'aime mieux un homme qu'un loup !» fit Paulette en se moquant d'elle.
« Tu ne lui parleras pas !» implora son amie, fort mal à propos, car Paulette avait déjà oublié sa bravade, et quand on l'en fit s'en ressouvenir, elle n'en voulut point démordre.
« Je lui parlerai, déclara-t-elle, je l'ai juré. »«
Point du tout, tu l'as dit en plaisantant. »«
Je n'ai qu'une parole, fit Paulette avec majesté, mais je serai convenable. »
Alors elle s'assit bien droite, son chapeau sur les genoux, et elle attendit que la situation se déroulât. On aurait pu imaginer un plus joli tableau de genre que ce groupe de deux fillettes, brunes et blondes, toutes menues, posées sur ce vieux tronc comme deux mésanges un peu farouches et qui s'envoleront à grand froufrou si seulement une feuille remue. À travers le taillis mince des branches pointillées de bourgeons, une pluie de soleil tombait en larges bandes, faisant reluire le lierre comme de vives émeraudes et briller leur fin des primes verts au corsage de Paulette. Si gracieux était l'arrangement, si douce la lumière, que le charme en semblait presque artificiel et que, surpris, le promeneur s'arrêta net au contour, tenant en l'air la gaule de noisetier dont il se servait pour faire voler les petits cailloux de droite et de gauche. « Qui est-ce ? » chuchota Marie-Louise, car elle était assise le dos au chemin et n'aurait voulu pour un empire tourner la tête. Paulette, droite comme un sabre, répondit sans faire un mouvement.
« C'est un jeune homme. A-t-il bonne façon ?
Il n'a pas l'air d'un assassin.
Bon, le voilà qui s'arrête et nous regarde.
Oh, Paulette, ne lui parle pas.
J'ai juré de le faire, mais je ne sais que lui dire. Je ne peux pourtant pas lui annoncer que le grand Turc est mort. »
« Tu pourrais lui demander l'heure, » suggéra Marie-Louise, qui, aussitôt, devint rouge comme une fraise et sentit ses joues brûler. L'objet de leur attente émue, craignant sans doute qu'une plus longue contemplation ne fût trouvée indiscrète, se remettait en marche et fut bien vite à deux pas des jeunes filles. Il souleva son chapeau, il passait.
« Excusez-moi, monsieur, » fit Paulette d'une voix extrêmement sévère. « Je voudrais bien savoir l'heure qu'il est. »
On eût pu croire à l'entendre que le passant manquait à tous ses devoirs en négligeant de lui fournir de lui-même cette information. Il fit volte-face et Marie-Louise se hasarda à glisser vers lui un timide coup d'œil. Il était grand et il avait une figure drôle, le nez un peu en l'air et la moustache ébouriffée, les yeux noirs et pointus. « Désolé, mademoiselle, répondit-il, j'ai laissé ma montre à la maison. » Paulette inclina la tête avec majesté. Elle avait accompli son serment et désirait à peine, oh, un tout petit peu seulement, que l'incident se prolongeât. Mais son interlocuteur restait là, immobile, tandis que ses yeux noirs cherchaient Marie-Louise derrière le dos de Paulette. « C'est la première fois, mademoiselle, reprit-il, que je regrette de n'être pas un Indien Apache ou Sioux. »
Pourquoi donc, grand ciel ? S'écria Paulette, dont l'imagination évoqua de vagues images de tomahawks et de couteaux à scalper.
« Parce qu'alors je pourrais vous dire l'heure à l'horloge du soleil. »
« Oh bien !» fit Paulette l'intrépide. « Si vous aviez vu des sauvages, vous n'auriez pas tant de regrets. Ils sont affreux. J'ai vu des Zoulous, moi. »
« Je n'en doute nullement, mademoiselle, » répondit-il de son air drôle et bourriffant encore sa moustache d'un revers de main. « Et je suis sûre que, dans la rencontre, ce n'est pas vous qui avez eu peur. » Elle le regarda incertaine. Il avait l'air bon camarade, un tantinet moqueur. Elle dit à Marie-Louise, « Puisqu'il ne sait pas l'heure, partons. » Et elles se levèrent toutes deux. Elles mirent leur chapeau, mais ils ne s'en allaient pas, ils les regardaient.
« Je voudrais bien vous photographier, » fit-il tranquillement, comme s'il eût proposé la chose du monde la plus naturelle. Paulette avait déjà remarqué qu'il tenait à la main une boîte en maroquin noir.
« Votre Kodak, » dit-elle en indiquant l'objet du menton. « Faites voir, j'en avais un là-bas, mais qui était vieux moule, et je l'ai laissé. Je déteste ce qui est vieux moule, moi. » Que faire sinon s'asseoir sur le bord du chemin et déballer l'appareil que Paulette examina dans tous ses détails avec un vif intérêt.
Quant à nous photographier, conclut-elle, il faut demander cela à Marie-Louise. Elle sait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans ce pays.
Marie-Louise n'avait pas encore ouvert la bouche. Elle dit d'une voix un peu tremblante en se tournant vers son amie.
Nous n'avons pas le temps. Nous arriverons trop tard pour notre cholet. »
Et passant vite sa main sous le bras de Paulette, elle se trouva délicieusement posée, juste dans la lumière qu'il fallait et ombrée à ravir sur un fond de feuillage.
« Ah ! Soupira le jeune homme, si j'osais !»«
Oser !» fit Paulette impérieusement. « Je comprends ça. Ce vieux cholet peut attendre. Toi, Marie-Louise, ne bouge plus. » Quand fut terminée l'opération, qui dura juste 10 secondes, le jeune homme salua profondément du château.
« J'aurai l'honneur de vous soumettre les épreuves, dit-il, quand il vous plaira. »«
Vos bains sont prêts ? » demanda Paulette d'un air entendu.
« Parfaitement. »«
Vous demeurez près d'ici ? » ?»«
Là-bas, répondit-il en indiquant de la tête un point vague vers le nord-est.
« Ah, mais ça peut être la Russie, ce que vous montrez là ? » Je sais mes points cardinaux, allez.
Non, mademoiselle, je n'ai point l'avantage d'être aussi exotique. Je demeure par intermittence au Clos des Grives et mon père est le boulanger.
Tiens, s'écria Paulette avec un vif intérêt, c'est votre père qui nous fait manger du pain sec 4 jours par semaine.
Rassis, mademoiselle, rassis.
Oh, rassis, dans le pays d'où je viens, monsieur, on a des petits pains tout chauds à chaque repas.
« Ce qui est très mauvais pour l'estomac, mademoiselle. »«
Bah, bah, c'est le pays des autruches aussi, et vous savez ce qu'on raconte de leur estomac. Dites de ma part à monsieur votre père qu'il devrait bien se lever matin tous les jours et nous faire manger du pain frais. Mais si votre père est boulanger, qu'est-ce que vous êtes donc ? » fit-elle.
« Eh bien, je suis son fils, » dit-il en riant.
« Le petit Mitron, comme dans la chanson. » Mais tout ça n'arrange pas notre affaire. Nous passons dans ce chemin tous les jours vers 4h30, Marie-Louise et moi. Si nous sommes seuls, on pourra causer. mais si nous avons une duègne avec nous, ne vous risquez pas, vous nous feriez gronder. »
Rien ne saurait être plus clair. Je reste à vos ordres, mesdemoiselles, dit le jeune homme qui ajouta, avec une intonation un peu émue de protection honnête et fraternelle. Allez-vous-en bien vite à votre tasse de lait, car il va se faire tard dans les bois. Puis il les salua de nouveau fort respectueusement et s'éloigna, le cœur tout attendri, car il voyait combien ingénue était la hardiesse de Paulette, combien innocent le rendez-vous qu'elle lui donnait. Marie-Louise avait retrouvé la parole. Elle ne cessa jusqu'à la ferme de commenter chaque détail de la romantique rencontre et se fâcha, autant qu'un myosotis peut se fâcher, contre Paulette qui persistait à appeler ce jeune homme si grand et si poli le petit Mitron.
Il n'a pas un grain de farine sur lui. Je crois plutôt qu'il étudie. Oh, Paulette, si vraiment c'était un étudiant! S'écria Marie-Louise avec ferveur.
Eh bien, quoi? Fit Paulette étonnée de ce transport.
Ah, tu ne sais pas, mais à la pension, toutes les grandes étaient folles des casquettes.
Ben, j'aime mieux les chapeaux, moi, déclara son amie.
Tu n'as jamais vu la casquette blanche, ni la rouge, ni la verte. Tu ne sais même pas ce qu'elle signifie et tu essaies d'en parler, fit Marie-Louise avec commisération. Crois-tu qu'il reviendra?
Si c'est un gentleman, il sera là demain à 4h30 précise. On ne fait pas attendre les dames, dit Paulette d'un ton catégorique.
À la ferme, Marie-Louise but 2 tasses de chaud lait. Elle assura qu'il n'avait jamais été aussi bon et que la vache avait certainement mangé de la vanille, ce dont Paulette fut ravie, et elle ne put s'empêcher, en redescendant vers le village de dames, de dire à sa languissante amie
« Hein, j'ai trouvé le tonique qu'il te fallait !»
Le lendemain, ô déception, ô mortification cruelle, courroux intérieur, regard chargé de protestations, quand mademoiselle Alexandrine Jacquet se déclara disposée à faire aux 2 petites le plaisir de les accompagner dans leur promenade. Ô rage muette, ô regret trop amer, lorsqu'à l'orée du bois, dans la clairière charmante, elles virent leur gentil photographe, assis sur un vieux tronc enguirlandé de lierre, et qui salua mademoiselle Alexandrine, juste comme il convenait, en ôtant son chapeau sans rien dire. Très franchement, Paulette lui jeta un regard désolé. Marie-Louise baissa les yeux. Mademoiselle Alexandrine ne fit pas plus attention au jeune homme que s'il eût été un simple écureuil sur une branche. Du moins, elle s'en donna l'air, car elle connaissait bien le fils du boulanger et elle savait que les journaux avaient parlé de lui. Seulement, elle ne se rappelait plus trop à quel propos. Elle se mit aussitôt à causer des charmes de la nature et des mœurs des fourmis, de peur que l'esprit de ses jeunes compagnes ne s'attardât en arrière autour du vieux tronc. Marie-Louise n'eut aucun appétit pour son lait ce soir-là et ne lui trouva aucun goût de vanille.
« Demain, peut-être demain !» lui souffla Paulette qui la vit tout abattue et lui pinça le bras par affection pour la ranimer.
Mais le lendemain, ce fut mademoiselle Alise qui fit son tour de garde et le surlendemain, madame Perrault-Campillon qui, tout le long du chemin, les entretint de ses succès d'autrefois au conservatoire. Et le vendredi, comme le samedi, celui qu'elle commençait à estimer tel qu'un ami fidèle était là, patiemment assis au bord de la clairière, leur coulant un regard de reproche comique. Une grande enveloppe grise gisait sur la mousse, à côté d'un livre. Mademoiselle Alise, moins prudente que son amie mademoiselle Alexandrine, s'exclama, après quelques minutes de fouille dans sa mémoire,
« Mais c'est le fils du boulanger, je le reconnais fort bien, quoique je ne l'ai pas vu depuis 5 ou 6 ans. Les journaux parlaient de lui l'automne dernier. »
Ici, rencontrant les yeux bruns de Paulette immensément ouverts et comme affamés d'informations, mademoiselle Alise s'arrêta court dans ses réminiscences. Oh, quelle fade et maussade tasse de lait les pauvrettes burent ce jour-là! Avec madame Perrault-Campillon, ce fut encore pis. Elle jeta un coup d'œil soupçonneux aux promeneurs si inopinément rencontrés et remarqua subtilement que les 2 fillettes répondaient à son salut avec une petite nuance indéfinissable de déjà-vu. Alors, telle qu'une poule qui ouvre ses ailes pour cacher ses poussins à l'oiseau ravisseur, elle jeta ses 2 bras. Madame Perrot-Campillon était une grande et belle femme qui avait les gestes amples. Elle jeta ses deux bras autour de Marie-Louise et de Paulette et les entraîna d'un pas accéléré jusqu'au tournant du chemin. « La solitude, dit-elle d'une voix très haute et très accentuée, la solitude était jusqu'ici le grand charme de cette promenade. » Ces dames, on le voit, pratiquaient l'ancienne méthode d'éducation pour jeunes filles. Malheureusement, Paulette avait commencé par la nouvelle et la graine d'indépendance avait poussé de profondes racines dans son caractère. Il lui fallut plusieurs instants pour se remettre de sa suffocation. D'un mouvement brusque, elle se dégagea des ailes protectrices qui l'entouraient avec ostentation. Puis ses yeux flamboyants lancèrent comme un signal à la trop docile Marie-Louise qui s'en allait tête basse, pareille à un agneau résigné.
« Je voudrais bien savoir si ce jeune homme vous a entendu, madame, » fit-elle de son ton le plus délibéré.
Sur quoi Marie-Louise, en grande alarme, lui poussa le coude de toutes ses forces.
« D'abord, ma chère Paulette, » répondit madame Perrot-Campillon, sentencieuse et les yeux veloutés d'un sourire. « Il ne convient pas qu'une jeune fille dise « un jeune homme ». Elle doit dire « un jeune monsieur ». Le mot « homme » n'est admissible qu'en style poétique. Ensuite, je conviendrai volontiers qu'il m'a probablement entendu et je n'en suis pas fâchée car ma remarque s'adressait à lui. Mais vous semblez l'avoir déjà vu. Qui est-il ?
C'est le fils du boulanger.
Ah, comment savez-vous cela ?
Mademoiselle Alise nous l'a dit hier, répondit Paulette, qui n'était pas sans sa fine pointe de diplomatie. Nous étions avec elle quand nous l'avons rencontrée.
Tiens, fit mademoiselle Perrot-Campillon, un instant oublieuse de sa prudence, les journaux n'ont-ils pas mentionné son nom il y a quelques mois ?
Parfaitement, dit Paulette avec crânerie. Il est célèbre.
Dans ce cas, il méditait sans doute sur des sujets importants, conclut la dame Chaperon. Au retour, nous prendrons un autre chemin, crainte de le déranger s'il était encore là.
Ça ne peut plus aller ainsi, rageait intérieurement Paulette. Je deviens lâche et aussi bébête que Marie-Louise. Je n'ose même plus faire une question. On me fausse le caractère systématiquement. On me défend d'être naturelle, on m'empêche de respirer. On voudrait me rendre anémique, comme Marie-Louise, jusqu'à ce que je n'ai plus un souffle pour me défendre. Nom d'un petit bonhomme, on verra bien si Paulette se laisse mécaniser comme ça.
Tandis qu'en style choisi, elle s'excitait ainsi à la révolte, un noir abattement, un chagrin amer consumait la pauvre Marie-Louise. Une minute de plaisir curieux l'avait fait revivre. Un léger battement de cœur, intérêt ou crainte délicieuse, avait chassé plus vite vers ses joues son sang engourdi. Une cuillerée d'amusement l'avait ranimé plus que toutes les pilules et tous les fers dialysés. Mais la dose du doux remède n'était point assez forte et déjà l'atonie revenait, avec l'ennui, avec la rongeante préoccupation d'être bien sage, avec le poids des années qui n'étaient point les siennes, mais qui pesaient tout de même sur ses jeunes épaules. On lui avait inculqué trop de préceptes, on pensait trop mûrement, trop raisonnablement autour d'elle, et sa pliante jeunesse était trop tiraillée du côté de l'ombre où se réfugiaient des existences qui avaient eu leur grand soleil de midi. Pendant ces deux longues journées de désappointement, rien ne put la distraire de sa tristesse. Fru Mincette lui fit des crêpes qu'elle aimait à la folie, mais elle n'y toucha point. Et tout le samedi, elle fut accablée et maussade chez Mademoiselle Bellange, la charmante petite infirme que les deux fillettes chérissaient.
« C'est une détraque de printemps, » dit Mademoiselle Bellange, toujours indulgente. « Au printemps, on sent le besoin de vivre de 100 façons, et comme le bon Dieu ne nous en donne qu'une, cela nous dérange un peu l'humeur. » Comme sa façon de vivre, à elle-même, était fort recluse et monotone et chétive et qu'elle ne s'en plaignait point, Marie-Louise sentit une grande contrition lui remplir l'âme. Alors son chagrin s'aggrava de remords. Le pauvre petit bouton de rose trempé dans un vrai pot à l'encre. Un soleil magnifique éclaira le réveil du dimanche et, dès le matin, un pèlerinage de cousins et de cousines, d'amis, de filleuls et de beaux-frères, arriva de la ville pour voir comment le printemps se comportait au village de Dames. Le bois gentil embaumait les jardinets de ses choses épices, la buée verte des frêles petites feuilles flottait déjà sur les haies de groseilliers, et le grand sureau, qui ombrageait la fontaine de Mademoiselle Alise, ouvrait ses éventails bruns au bout de chaque rameau. Dans le bois, la grive s'écoutait chanter, variant ses cadences, ses appels flûtés. Les mésanges aux voix aiguës et vives de petites ménagères affairées se jetaient d'un arbre à l'autre de leur vol fantasque qui fait des bonds dans l'air. Les cottages voisinaient. Par-dessus les barrières, on s'invitait à prendre le thé dans le jardin pour la première fois de l'année. Madame Lénier-Nicole dit à sa nièce « Paulette, je te dispense pour aujourd'hui d'aller prendre ton cholet, si tu veux. Tu nous serviras le thé, cela t'amusera. » « Oh, ma tante !» s'écria la fillette. « Marie-Louise s'ennuierait trop à y aller toute seule. » « Ma chère, je doute fort qu'aucune de ces dames puisse vous accompagner. Elles ont toutes des visites comme moi. » Sans attendre une permission plus explicite, Paulette courut à sa chambre, qui était au premier étage, dans l'appartement de Mademoiselle Alexandrine, jeta vite un coup d'œil au miroir, s'y adressa un signe de tête encourageant et prit son chapeau en toute hâte. Les deux petites avaient sans doute tramé ensemble leur complot, car Marie-Louise était déjà dans le sentier, au-delà du chalet de Mademoiselle Alise, toute tremblante d'émoi et d'impatience. « Que tu es lente ! J'ai cru que tu n'arriverais jamais » fit-elle avec une pétulance que Paulette ne lui connaissait point. « Ma foi, on fait ce qu'on peut, » répondit celle-ci en riant. « Je présume que le lait sera à la vanille aujourd'hui, » ajouta-t-elle en regardant sa compagne avec malice. La palote Marie-Louise devint toute rose en un instant et elle dit d'une voix étrange, à force de vouloir rester ordinaire, « Oh, je ne crois pas qu'il nous attende, il se sera lassé finalement. » Elles marchèrent pendant quelques minutes sous le poids de cette lugubre pensée et dans un profond silence. « J'aurais bien voulu voir ces photographies, pourtant, » dit enfin Paulette. « Moi, j'aurais... Moi aussi, » fit Marie-Louise. Et Paulette la regarda du coin de l'œil drôlement. Elle fit semblant de s'intéresser aux escargots, comme l'autre fois, mais à chaque pas, leurs deux petits cœurs battaient une tambourinade plus accélérée. Ce fut Paulette qui, la première, osa tourner les yeux vers la clairière, vers le vieux tronc. Alors elle s'arrêta et saisit la main de Marie-Louise en murmurant « Il est là !» Puis, sa simplicité d'enfant et sa fougue l'emportant sur les conventions, elle se mit à courir, quittant le sentier, tout droit vers l'ami tant désiré, et elle se planta devant lui d'un air digne que les soufflements seuls empêchaient d'être majestueux. « « C'est pas malheureux qu'on vous trouve à la fin, » prononça-t-elle. « Voilà 3 jours et 3 nuits que je n'ai bougé de mon poste avec la rosée pour tout breuvage et cette enveloppe pour couverture, » fit-il d'un ton de drôlerie sérieuse qui ravissait Paulette. Car elle avait été bercée et nourrie par l'humour britannique de M. Harrison et ses plaisanteries d'un goût spécial lui manquaient, comme un bébé sevré, le lait de sa chèvre nourricière. Marie-Louise s'approchait plus lente. Elle fit sa petite révérence timide, puis elle s'assit sur une pierre afin d'indiquer qu'elle était venue pour ça. Elle avait de ses audaces silencieuses. « Vous vous êtes fait beau !» dit Paulette avec approbation. « Pour rencontrer ces dames, » fit-il avec un grand salut. Il portait un complet de flanelle blanche rayé de noir. À sa chaîne de montre en argent niellé, très simple, pendait comme breloque un petit monoplan délicatement ouvragé. Et il avait pour épingle de cravate une petite roue ailée dont le moyeu était un rubis. « Vous m'avez tout l'air d'un sporting gentleman, » reprit Paulette après l'avoir longuement considéré. « À la fin des fins, si vous n'êtes pas le mitron de votre papa, pourrait-on savoir ce que vous êtes ?» « Mais, répondit-il, l'air un peu ennuyé, pour le moment, je suis photographe. »« C'est comme si nous disions, Marie-Louise et moi, que nous sommes dans le commerce du lait parce que nous allons en boire un verre tous les soirs, » riposta Paulette en haussant les épaules. Le jeune homme se mit à rire, montrant de jolies dents blanches sous sa petite moustache ébouriffée. Il étendit la main vers la grande enveloppe posée sur la mousse et, sans rien dire, en tira deux cartons gris dont il présenta l'un à Marie-Louise et l'autre à Paulette. Elles poussèrent ensemble un cri d'extase. Admiration d'un si joli tableau, doux ravissement d'en avoir été les modèles. Car les arbres, dans leur légèreté printanière, servaient de fond à deux figures qui étaient le printemps même, si animées et si jeunes, et des yeux souriants, étonnés, qui découvraient la vie. Elles dirent naïvement « Oh, que c'est joli, c'est nous !» Comme les feuilles de soie transparentes, vertes et dorées et chiffonnées, frémissantes, tendres, pourraient le dire un beau matin de mai, quand elles s'ouvrent à la lumière, au bout des frêles rameaux du hêtre. Comment, c'est nous, si charmantes de fraîches nouveautés, que les vieilles gens sentent comme une larme rien qu'à nous voir. Paulette dit, tout émue, « Ben, je ne me serais pas crue comme ça !» Et Marie-Louise fit doucement, « Quel bonheur !» Le jeune homme les regardait toutes deux et pensait « C'est un bouton de rose thé, un bouton de rose de Bengale. Si l'on me donnait à choisir... » « Vous êtes gentil !» fit Paulette en lui tendant la main. « Soyez photographe ou mitron, ça m'est égal. Vous êtes gentil et ça m'encourage. »« Ah » fit-il surpris. « Oui, j'ai une chose à vous demander. » « Voyez-vous, je m'ennuie trop. Je deviens trop bien élevé, ça me gâte le caractère, je tournerai mal. Je ferai des sottises, et alors toutes ces dames seront dans la douleur. J'y ai beaucoup réfléchi, car je suis plus raisonnable que vous ne pensez. Vous avez dans l'œil quelque chose qui me va. Je m'y connais, allez. Papa le disait toujours que je me connaissais en honnêtes gens, et c'est moi qui lui choisissais ses commis. Bref, pour en venir au fait, je vous prie de m'enlever, si ça ne vous donne pas trop d'embarras. » Il fixait sur elle des yeux pleins de francs rires, mais sa bouche sensible avait comme un petit pli d'émotion dans le coin. « Ah » fit-il d'un air gravement drôle, « vous voulez que je vous enlève? C'est bien des affaires. » « Pas tant que ça. Les frais, papa vous les rembourserait. Mais j'aime mieux tout vous dire pendant que j'y suis. » Je n'ai parlé que de moi, tout d'abord, pour ne pas vous épouvanter. Mais il faudrait aussi enlever Marie-Louise. » La pauvre blondinette, croyant que son amie devenait folle, lui serrait le bras des deux mains et poussait des interjections suppliantes. « Ne l'écoutez pas, » poursuivit Paulette imperturbable. « Il faut agir. On l'assassine de leçons et de belles manières. Et puis, on la gorge de lait et on croit que ça la guérira. Moi, je dis... « Zut, ce qu'il nous faut, c'est un enlèvement. »« Vous me direz, un enlèvement avec un monsieur, c'est pas convenable. »« Mais chez nous, en Afrique, c'est toujours les messieurs qui font les enlèvements, je vous assure. »« Et ça marche très bien. » »« Mes plans sont faits, » continua-t-elle les yeux brillants, les joues rouges d'animation. « Vous nous attendez quelque part dans le voisinage, avec une voiture et un bon cheval, et v'lan, nous filons. » Vous nous conduisez à une gare un peu éloignée pour dépister les recherches, vous comprenez? C'est toujours ce qu'ils font dans les journaux, les gens qui s'enlèvent. Là, 3 billets pour Paris, ensuite pour Liverpool. Je télégraphie à papa. Il m'envoie l'argent par mandat télégraphique. Vous nous embarquez. Et si le cœur vous en dit de voir des Zoulous et des Autruches, je vous invite. Papa sera charmé de faire votre connaissance. « Pour une jeune demoiselle débrouillarde, » fit-il. « N'est-ce pas? Mais si vous écoutez Marie-Louise, tout est perdu. »« Je crains bien, » dit le jeune homme, les yeux fixés vers l'entrée de la clairière, « que tout ne soit perdu en effet. » Elles le regardèrent et lurent sur son visage une alarme, moitié sérieuse, moitié feinte. Alors, elles tournèrent la tête précipitamment. Au bas du chemin, sous l'arcade des arbres, elles aperçurent Mademoiselle Alice qui montait d'un pas d'assaut, gesticulant avec son parasol. Marie-Louise, épouvantée, se leva comme pour fuir, mais Paulette la retint. « Tu ne vas pas caponner ?» dit-elle à voix basse. À 5 pas du petit groupe, Mademoiselle Alise s'arrêta, essoufflée par la marche, suffoquée d'étonnement. Le jeune homme saluait, imperturbable et poli. Marie-Louise était changée en marbre. Paulette semblait innocente et naïve. Le courroux de Mademoiselle Alise ne sut auquel des 3 coupables s'adresser en premier lieu. Comment d'ailleurs morigéner 2 jeunes filles en présence d'un jeune homme? De quels termes envelopper le reproche? Par quel artifice sauver la situation? Qu'il fait chaud! Fit Mademoiselle Alise, cherchant des yeux une grosse pierre pour s'y asseoir provisoirement. L'émotion lui cassait les jambes, il lui fallut quelques instants pour se remettre. Ses yeux tombèrent sur le carton gris que Paulette tenait encore entre ses mains. Aussitôt, la fillette le lui tendit. « Très réussi, n'est-ce pas » fit-elle. « C'est monsieur qui nous a photographiés l'autre jour. »« Et vous n'en avez rien dit ?» gronda Mademoiselle Alise, l'œil sévère. « Une surprise, mademoiselle, » dit le jeune homme. Ses yeux intercédés, la photographie était charmante, la situation remédiable, Mademoiselle Alise s'adoucit. « Ah ça, » dit-elle, « depuis quand faites-vous de la photographie? Et cette côte, elle est raccommodée ?»« Hein, pas trop, » dit-il avec un petit haussement d'épaule. « Le dommage était sérieux cette fois. »« Je plains votre pauvre maman. » « Merci, » fit-il de son ton moitié triste, moitié railleur. « Ah, si vous croyez que je vous plains, vous !» fit la vieille demoiselle agitant ses boucles grises. « Va-t-on choisir un pareil métier de casse-cou ?»« Ne me grondez pas trop, » fit le jeune homme qui soupira. « J'ai dit adieu à l'aviation. »« Par raison ou par santé ?»« Par raison de santé, » répondit-il en riant. Mais il y avait de la mélancolie dans son rire. « Quelle bêtise !» s'écria-t-elle. « Je gage que vous n'avez rien du tout. On vous aura mal soigné. Que vous ont-ils dit, ces grands savants de là-bas ?» Elle s'interrompit. Elle avait, l'espace d'un instant, oublié Paulette, oublié Marie-Louise, pour ne voir que le petit garçon frisé, tel qu'un petit agneau noir dont elle avait soigné la méchante rougeole 20 ans auparavant, qui, tout guéri et gaillard, apportait dans sa petite hotte les miches de pain frais, qu'on avait instruit soigneusement pour en faire un brave garçon, pareil à tout le monde, et qui s'était enfui voilà 3 grandes années, affamé d'aventures et de gloire, pour lancer son avion à travers tous les championnats de l'univers. Le village de Dames avait hoché la tête à chacune de ses victoires quand les journaux en apportaient la nouvelle. Il payait, assurait-on, de la sève de sa jeunesse, tous ses lauriers, ses coupes d'or, ses sommes fabuleuses et cette clameur de renommée. Et quand il tomba, tout meurtri et fracassé, au fond des États-Unis, on trouva cela très juste et bon pour l'exemple. C'est ainsi du moins que parla Mademoiselle Alexandrine Jacquet, interprète rigoureuse des intentions de la justice céleste. Quant à Mademoiselle Alise, c'était une sauveteuse, une guérisseuse par instinct. Elle songeait aux blessures d'abord, aux méfaits ensuite, s'il restait du temps. Elle dit « Nous en reparlerons. Surmenage du cœur ?» Le jeune homme inclina la tête, un peu ennuyé. « On vous a prescrit le repos, pas d'émotion, pas de marche rapide, ni secousse, ni trajets en chemin de fer. C'est raisonnable, mais insuffisant. Je possède une prescription de mon père, souveraine pour établir le fonctionnement normal des valvules. Au fait, comme nous devons poursuivre notre promenade, accompagnez-nous. Ces fillettes prendront les devants et vous m'expliquerez vos symptômes. » Soumises et résignées, elles se levèrent, firent quelques pas sans rien dire. Elles se tenaient par le bras et, comme des petites filles bien sages qui vont chanter ou dire un compliment, chacune tenait dans sa main son carton gris. « Manquez l'enlèvement !» soupira Paulette. À quoi Marie-Louise répondit, ineffablement soulagée, mais un peu triste tout de même. « Tu crois ?»« Si je le crois, tu n'as donc rien entendu ? Tu voudrais donc sa mort ? On lui interdit les émotions et le chemin de fer. Alors, de quoi penses-tu qu'un enlèvement soit fait, sinon d'émotions et de chemin de fer ?» Un peu plus haut, comme Marie-Louise s'arrêtait, essoufflée, elles entendirent Mademoiselle Alise qui disait Avec cela et par surcroît, je vous recommande une cure de chaud lait. Dans toutes les affections du cœur, on prescrit le lait. »
Si je commençais tout de suite, approuvait-il avec enthousiasme.
Vous ne sauriez mieux faire. Je vais vous proposer à notre brave laitière comme un nouvel abonné.
Les miracles de cette cure de lait, ordonnée par l'excellente Mademoiselle Alise dans un accès passager d'inconscience, les hauts cris qu'en poussa le village de dames, les sinistres prévisions dont aucune ne se réalisa, la gaieté refleurissant comme une rose sur les lèvres de Marie-Louise, et la raison, ainsi qu'un brin de romarin, embaumant toutes les actions d'une Paulette assagie qui ne pensa plus à se faire enlever, et comment le champion du monde, voué définitivement à la photographie, portraitura toutes ces dames, par groupes ou séparément, et devint extrêmement populaire, et comme quoi son affection du cœur, guérie par le lait, fut remplacée par une autre à laquelle on découvrit également un remède, toutes ces choses trouveront plus loin leur écho, s'il en vaut la peine.